Bonsoir, province de Nord-Kivu, 4 jours de deuil décrétés par la communauté Hutu à la suite du massacre ce week-end d'une trentaine de civils Hutu au village Luanga dans le territoire de Lubero. Ce massacre est attribué aux miliciens Maïmaï Mazembe. En réaction, l'ONG SIDOP qualifie cet acte de violation grave du droit international. Elle appelle l'auditeur supérieur militaire à ouvrir une action publique contre tous les responsables de sécurité militaire et civile pour n'avoir pas sécurisé la population. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 28 novembre 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Bokele Njoy, administrateur du territoire de Lubero en Nord-Kivu. Monsieur l'administrateur, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Omar Kabota, coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADO en sigle. Maître Kabota, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et Nikez Kibelbel, journaliste d'investigation basé au Nord Kivu. Monsieur Kibelbel, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci de nous suivre, partenaire de C'est sûr, la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Radio
Capi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À la suite du massacre dimanche d'une trentaine de personnes au village Luanga au Nord Kivu, les députés provinciaux élus des territoires de Rutshuru et Masisi, membres de la communauté Hutu, demandent à la population d'observer 4 jours de deuil. Ils l'ont fait savoir après avoir rencontré ce lundi 28 novembre à Goma les responsables de la MONUSCO. Mais que s'est-il passé exactement au village Luanga? Rosalie Zawadi, qui revient de Luanga, nous en dit plus dans cet échange avec Alain.
Bonsoir Rosalie Zawadi, vous êtes l'une de nos correspondantes à Goma, au Nord Kivu. Vous revenez de Luanga. Qu'est-ce qui s'y est passé ce week-end?
Bonsoir Alain. Selon les informations en notre possession, des combattants identifiés comme des Maïmaï Mazembe, c'est une milice d'obédience Nandé, ont attaqué vers 5h du matin, hier dimanche, un site de déplacés à Luanga et proche d'une position FRDC. Et à leur arrivée, ces Maïmaï se sont scindés en deux groupes. Le premier a attaqué la position des FRDC pendant que l'autre s'en prenait au camp des déplacés. Ainsi, les FRDC, un nombre insignifiant, 10 seulement, ont commencé par repousser ceux qui les attaquaient avant d'aller secourir les déplacés. La communauté Hutu elle-même avançait les chiffres de 39 personnes tuées. Mais nous venons de Luanga, les derniers bilans est plutôt de 30 personnes tuées, parmi lesquelles 29 civils et un assaillant. Et parmi les civils, il faut dire qu'il y a 3 hommes, 15 femmes et 11 enfants. Les blessés, une quinzaine, ont été acheminés par la MONUSCO à Goma, où ils sont pris en charge dans une structure médicale de la place. Les 29 civils ont toutes été inhumés ce lundi, prédiquant des déplacés de Luanga. Et après inhumation des leurs, tous les ménages déplacés de ces sites ont quitté les lieux pour trouver refuge dans les villages Kasengi, près de la base de la MONUSCO, c'est à 2 km de Luanga.
Rosalie, à quoi peut-on attribuer ce massacre?
Difficile de répondre directement à cette question, car depuis pratiquement une année, des actes de ce genre se répètent malheureusement dans cette zone. Les centres d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, avaient déjà alerté il y a quelques jours sur un probable massacre de Hutu par les Maïmaï Mazembe. Ces Maïmaï disent vouloir combattre ce qu'ils considèrent comme une invasion de Hutu dans leur zone. Depuis plusieurs mois, beaucoup de familles Hutu quittent les suds de la province, notamment les territoires de Masisi, pour se diriger vers les territoires du nord de la province à la recherche des terres. Cela, c'est après l'abandon de leurs champs aux grands propriétaires qui obligent les petits agriculteurs à quitter les villages où ce sont des fermes qui sont mises en valeur. Entre-temps, ces territoires où se dirigent ces familles Hutu sont déjà surpeuplés, d'où ces tensions intercommunautaires.
Pour terminer, Rosalie, quelles sont les solutions qui ont été proposées?
Réagissant justement à ces massacres des Hutus à Luanga, les élus de cette communauté ont appelé à l'apaisement. Ils ont demandé à la population de Lubero de rester calme en attendant l'action du gouvernement. Ces notables du Nord Kivu ont également invité la population à la tolérance et au dialogue en cas de conflit. À l'État congolais, ils lui ont demandé d'avoir un œil sur la situation de Lubero et de partout ailleurs dans la province du Nord Kivu. La population, quant à elle, demande le renforcement des effectifs militaires dans la zone, des sanctions exemplaires à l'endroit des auteurs de ces tueries et surtout des solutions durables à la crise.
Merci Rosalie Zawadi et bonne soirée à Goma.
Merci Alain Irung.
Voilà, merci Alain Irung, Rosalie Zawadi, Monsieur Bokele Njoy, administrateur du territoire de Lubero au Nord Kivu. Monsieur l'administrateur, dites-nous, quelle est la situation en ce moment à Luanga?
Oui, effectivement, au moment où vous me parlez, je suis d'ailleurs en route, en revenant de Luanga. La situation est restée calme. Il y a la MONUSCO qui laissait quand même une base d'éléments sur place. Et nous avons essayé un peu de renforcer également aussi les FRDC. C'est trouvé un nombre de 10. On a également renforcé quelques éléments pour qu'ils puissent travailler en synergie pour protéger les populations.
Alors,
en bref, la situation restait calme. Rosalie vous a expliqué la population. Vous savez, quand il y a des massacres, il y a toujours l'agitation au sein de la population. Mais en tant qu'autorité, nous avons essayé un peu de prendre langue avec cette population pour leur demander de se calmer et de laisser la responsabilité à l'État pour la suite.
Alors, mais comment vous expliquez ce massacre, monsieur l'administrateur, sachant qu'il y a quelques jours, il y a le CEPADO qui avait alerté les autorités sur une prétendue attaque des Maïmaï Mazembe sur la population Hutu qui se trouve à Luanga?
Et effectivement, nous, le CEPADO avait alerté, nous-mêmes les autorités, nous étions, puisque dans l'espace d'un mois, il y a eu à peu près 3 attaques aussi de Lubero, notamment le 7, où ces mêmes groupes Maïmaï qui avaient attaqué Boutalika, ce qui fait que les populations qui étaient aux environs de Boutalika, Boussekera, Mboisinoa et Kyoto, craignant des éventuelles attaques, se sont réfugiées à Luanga. Effectivement, on connaissait la situation et on avait pris des précautions. Les FARDC, on vous a dit que ce n'est pas la première attaque, puisqu'il y a eu le 7, les FARDC est intervenu. Le 13, également, le même groupe est venu attaquer la position de la population au niveau de Luanga. Les FARDC est intervenu. D'ailleurs, il y a eu même 3 des assaillants qui ont trouvé la mort après l'échange de tirs avec les FARDC. Et effectivement, on ne savait pas que l'ennemi pouvait changer de tactique pour venir en 2 groupes et essayer un peu d'attaquer et les FARDC et la population.
C'était quoi les précautions prises par les autorités, puisqu'on a retrouvé dans le village 10 éléments FARDC seulement? Est-ce que c'est suffisant pour ce village?
Oui, nous connaissons qu'effectivement, nous n'avons pas que le village Luanga qui est en problème. Vous savez, madame, il n'y a pas un mois, le nord du territoire de Lubero, précisément dans le secteur de Batere, a été attaqué par le Maïmaï. Nous n'avons qu'un seul régiment qui est déployé sur l'ensemble du territoire, y compris la ville de Butembo. Et comprenez qu'on a, on accepte qu'il y a vraiment déficit en termes d'hommes. Et c'est ce qui fait que chaque fois qu'on a un problème, on est obligé soit de prendre des éléments pour aller contrôler là où il y a des difficultés. Vraiment, nous connaissons ces déficits, mais les efforts ont été faits parce qu'il y avait quand même des militaires qui étaient là, malgré la situation qui est arrivée.
Oui, vous connaissez ce déficit en termes d'hommes. Est-ce que le gouvernement central est au courant de cette situation?
Oui, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait sans que le gouvernement central puisse y connaître. Vous savez, la crise dans le sud de Lubero, presque toutes les autorités, que ce soit au niveau national et provincial, sont passées par Lubero. Je vais vous rappeler quand même que le numéro 1, son Excellence le Président de la République, était passé à Miriki. C'était seulement dans la recherche des solutions. Je pense que la situation n'est pas méconnue par les autorités. Toutes les autorités sont au courant de la situation.
Alors, on attribue ce massacre au Mai Mai Mazembe qui appartiendrait à la communauté Nandé. Est-ce que vous confirmez cela, monsieur l'administrateur?
Moi, je pense qu'il faut que les gens fassent la part des choses. Il n'y a pas une communauté au Nord Kivu qui a un groupe armé, à moins qu'il y ait des gens qui peuvent venir me dire le contraire. Il n'y a pas un groupe armé qui appartiendrait à une ethnie quelconque. Ce sont effectivement, il y a des Maïmaï qui peuvent être d'origine Nandé, tout comme on peut trouver des Nyatura qui peuvent être d'origine Hutu, on retrouve des FDLR qui peuvent être d'origine Hutu qui sont des combattants étrangers, mais il n'y a aucune communauté dans la région qui a donné peut-être le pouvoir à un groupe armé de se représenter. Nous avons le président communautaire, vous pouvez le poser cette question, il n'y a aucune autorité qui pourra vous répondre qu'effectivement il y a des groupes armés communautaires, il n'y en a pas.
Alors selon vous, à quoi peut-on attribuer ce massacre? Simple attaque, représailles ou c'est un conflit intercommunautaire?
Oui, effectivement, il faut comprendre que nous sommes dans une zone où il ne faut pas seulement analyser le fait aujourd'hui, il faut partir même de la genèse du conflit. Effectivement, le conflit remonte de plusieurs années. Et il y avait en 1993 où les populations hutus qui habitaient le site des Libéraux, à cause de l'insécurité, avaient abandonné la zone. Ils sont partis. Ils sont revenus en 2011. Alors, nous reconnaissons qu'effectivement, il fallait un travail de fond pour voir comment réinsérer les populations qui avaient d'abord abandonné leurs champs. Vous savez, nous sommes à Lubero, parfois, il y a des coutumes, ici, les champs appartiendraient à de terriens. Il fallait d'abord un travail de fond avant de faire retourner les déplacés. Ça n'avait pas été fait. C'est ce qui fait que on est arrivé à un conflit entre, pas communauté, mais entre les propriétaires de terre et les communautés ou tout qui avaient abandonné leur terre.
Merci, alors, monsieur l'administrateur. On vous redonne la parole tout à l'heure. Maître Omar Kabota, coordonnateur et directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, c'est pas bon en sigle. Maître Omar Kabota, comment vous analysez cette situation?
Merci Kelly. Je voudrais commencer par saluer monsieur l'administrateur de territoire ainsi que l'analyse de Mikes Diberbe Loka avec qui nous allons débattre au cours de cette émission et également présenter mes condoléances, ma compassion aux familles éprouvées, ces familles qui ont été éprouvées à la suite de cette barbarie vécue dimanche dernier à Luanda. En fait, par rapport à votre question, madame, ce qui vient de se passer à Luanda, comme ce qui s'était passé il y a quelques jours, l'administrateur de territoire l'a rappelé à Bukalika, même à Kyoto, où il y a 11 mois à Miriki, n'a d'autre nom que la barbarie. C'est vraiment la barbarie qui vient d'être vécue dans cette partie du territoire de Lubero. Il s'agit en réalité de crimes qui ne doivent pas rester impunis. Et pour nous, ces actes traduisent à une certaine façon l'absence de l'autorité de l'État dans cette partie. Nous avons, vous l'aviez écouté à travers les reportages de votre correspondante Rosalie Zawadi, nous avons alerté pratiquement depuis tous ces mois sur ce qui se tramait dans les sites libéraux, sur les menaces que présentaient le Maïmaï Mazembe et tout ce qu'on a connu comme attaque dans le groupement Kama et Itala, donc dans cette série de Batangi. Il a été clairement, il y a eu des signaux clairs que l'eau s'acheminait vers le massacre.
Lesquels par exemple,
si vous pouvez revenir. Oui.
Vous parlez des signaux clairs. Lesquels par exemple?
Madame, vous avez suivi monsieur l'administrateur des territoires. Il vous a rappelé
qu'à date du 7 novembre, le Mai Mai Mazembe ont attaqué le village de Butalika. Là, ils ont tué 7 personnes. Une semaine après, c'était des attaques autour de Kyoto. On a enregistré 6 morts. Et au cours de la semaine dernière, cette semaine que nous venons de terminer, le Mai Mai a multiplié des menaces, des actes, soit par des tracts, soit par des messages anonymes, demandant aux membres de la communauté Hutu de vider cette partie. Et M. Lapé est revenu là-dessus en rappelant que plusieurs familles des communautés Hutu avaient fui des villages comme Kyoto, comme Butalika, comme même une partie de Luhanga ou de Bushekera, et aujourd'hui ils sont déclassés. Mais ça, ce sont des signaux clairs que réellement la menace était sérieuse. Mais quelles dispositions étaient prises? Vous venez de vous rendre compte, 10 militaires à Luhanga pour sécuriser tout un cas de déplacés, de personnes qui ont quitté plusieurs villages, et vous réalisez que ce n'était pas des dispositions suffisantes pour arrêter ou pour parer à toutes éventualités.
Alors, il y a Patrick Kitumaïnembo qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui dit ceci: ces tueries font preuve de la défaillance de notre système sécuritaire en espèce notre armée. Est-ce que vous partagez son point de vue?
Bon, parler de défaillance, ça risquerait d'être très fort, mais plutôt d'une certaine légèreté aussi dans le cadre de la prévention. Parce qu'il est clair, à territoire de Lubero, même à territoire de Beni, à ville de Butembo et de Beni, on est en train de s'acheminer, on est en train de vivre à ce jour une montée à puissance de groupes Maïmaï qui se multiplient et qui pratiquement sont en train de contenancer les forces armées et les forces de défense. Mais ils s'observent plutôt que le gouvernement central. Au niveau de Kinshasa, tout n'est pas en train d'être pris au sérieux, en sorte que, on sait que l'armée qui est déployée essentiellement dans cette partie vient combattre les terroristes des ADF Mali, les FDLR, et le Maïmaï qui sont en train de mettre soit une nouvelle donne. Donc on devrait renforcer la capacité des FARDC. On devrait davantage déployer d'autres unités ici pour que ceux qui sont sur place ne soient décordés. Parce que dans les cas d'espèce, on est en train d'observer qu'effectivement, les FARDC sont décontenancés. Il y a les Maïmaï qui agissent de l'autre côté, il y a les FDLR, il y a les ADF. Ça fait que l'armée soit débordée et le système de défense, effectivement, présente certaines vulnérabilités que Kinshasa devait prendre en compte pour vraiment rassurer l'ensemble de la population de cette partie du pays.
Merci, Maître Omar Kavota, Nickel Kibelbel, journaliste d'investigation basé au Nord Kivu. Comment vous expliquez-vous cette situation?
Oui, merci, Kelly. Je commence par présenter les condoléances aux familles éprouvées. Je salue aussi l'administrateur du territoire, Maître Omar Kavota. Au demeurant, quand nous suivons pratiquement les déclarations de l'administrateur du territoire, vous sentez qu'il y a un certain gêne ou une pudeur à désigner l'autre groupe. Il y a un groupe qui est bien identifié, qu'on appelle les Hutu. L'autre groupe, le Mai Mai Mazembe. Mazembe signifie quoi? Mazembe, toute la République sait que c'est le nom d'une équipe de football. Donc il faut qu'on arrive à identifier ce Mai Mai Mazembe, qu'on dise très bien que c'est un groupe Mai Mai, une milice essentiellement Nande qui attaque les Hutus. À ce moment-là, la définition même des protagonistes est connue. Et même lorsque nous suivons le communiqué du CEPADO de notre ami Maître Marc Avota, il dit qu'il faut... Il faut poursuivre les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les forces légalement établies. Là aussi, nous disons que la proposition ou la recommandation, elle est partielle, parce que les Mai Mai Mazembe qui ont perpétré des actes de barbarie, on doit les identifier et les punir au même titre que les services qui ont défailli. Ça, c'est un point. Le deuxième point, le problème, tout l'enjeu se passe, effectivement, on souligne le problème de la faiblesse de l'État. C'est vrai, il y a la faiblesse de l'État, mais le vrai problème se pose au niveau de la jeunesse. Ici, nous sommes dans des conflits identitaires, où vous avez les jeunes de chaque ethnie préfèrent s'enrôler dans les milices locales pour protéger leurs ethnies que de s'enrôler dans l'armée ou dans la police nationale. À ce moment-là, vous avez les nombres réduits des policiers ou des militaires par rapport au nombre élevé de jeunes qui sont entraînés au maniement des armes. Et ça pose problème. Donc, il y a d'abord ce problème de la protection et de la protection ethnique pour chaque ethnie, si je peux me répéter, qui fait que chaque ethnie, derrière des manipulateurs, organise une force pour attaquer l'autre pour le problème d'espace vital, parce que nous sommes effectivement dans des zones de haute tension démographique.
Alors, vous dites que les jeunes préfèrent, vous parlez de conflits identitaires pour protéger leurs ethnies, c'est-à-dire que les ethnies qui sont là-bas, chaque jeune voudrait se protéger contre une autre ethnie, si je vous comprends bien, mettre plutôt Nikias Kibelbel pour protéger son espace vital.
Effectivement, c'est le problème. C'est le problème foncier qui est à la base de tout cela. L'espace vital, c'est-à-dire l'espace foncier, la terre, est mal distribué ou mal redistribué. Tout à l'heure, l'administrateur du territoire nous a dit que les Hutus avaient été chassés, ils sont revenus. Bon, quand ils ont été chassés, qui avait occupé leur terre? Quand ils reviennent, avec le problème de démographie galopante, le problème d'espace vital, c'est-à-dire de terre, se pose avec acuité. Alors, chaque ethnie essaie d'organiser une milice qui va chasser l'autre pour rester sur la terre, rester avec cette terre pour, la cultiver pour la survie.
Mais quel est le rôle de l'État dans tout ça? Est-ce que l'État est faible devant cette situation? L'État n'arrive pas à résoudre ce problème?
L'État peut ne pas être faible. Le problème, c'est que les jeunes, parce que l'armée, la police, est composé des enfants du pays, des Congolais. Lorsque l'État organise l'enrôlement, et je peux même reculer, lorsque l'ONG, le PAREC, avait organisé le ramassage des armes, vous savez les résultats, les gens n'ont pas remis les armes, parce que l'arme constitue pratiquement une garantie de sécurité, de survie dans ces espaces ethniques. C'est-à-dire qu'on préfère armer les jeunes pour défendre l'espace, pour défendre l'ethnie. Et à ce moment-là, le nombre de jeunes qui sont armés, de part et d'autre, dépasse grandement le nombre de policiers ou le nombre de militaires qui doivent assurer la sécurité des contrées. Donc il y a le problème des effectifs qui se pose, pas parce que l'État ne veut pas recruter, mais parce que dans la tête des leaders, on n'oblige pas, on ne demande pas aux jeunes, même si on le fait de façon superficielle, mais en profondeur, les leaders ne veulent pas que les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée, dans la police nationale, parce qu'ils doivent protéger l'espace, ou ils doivent protéger les ethnies. C'est comme ça que vous avez profusion de groupes armés, vous avez des groupes armés qui ont des noms qui ne disent absolument rien. Vous avez par exemple, comme je l'ai dit tantôt, Mazembe. Mazembe signifie quoi? Est-ce que dans par exemple, dans la langue nangue, le mot Mazembe a quelle signification? Le mot Nyatura a quelle signification dans la langue Hutu, si je peux ainsi le dire? Donc les gens ont créé des égos comme ça pour que les leaders
donc
ne soient pas
identifiés. Donc ce sont des situations entretenues. Ce sont des situations entretenues par des fils du quoi?
Oui, ce sont des situations entretenues parce que qui peut nous dire? Maître Marc Avot l'a dit, les Mazembe ont préparé beaucoup de fois l'offensive. Mais qui est le chef des Mazembe? C'est difficile de le dire.
Merci, Nikias Kibelbel. Monsieur l'administrateur Bokele, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga.
Célestin Kabeya Bitu, depuis Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Les autorités politiques, militaires et policières de la RDC semblent, à mon avis, avoir failli à leurs missions respectives. Pourtant, elles ont la réelle obligation de protéger la personne humaine et la respecter conformément à l'article 16 de notre Constitution. Dans son deuxième alinéa, cet article stipule que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. C'est à l'État congolais de prendre ses responsabilités en main face à ce sujet, car la vie humaine est sacrée, dit-on.
Monsieur l'administrateur, vous avez failli à votre
beaucoup,
mission
madame.
De protéger la population.
Je commence par saluer Niskens et Maître Kabota qui débattent avec moi. Je pense que je ne partage pas ce point de vue-là. Croire que l'État congolais a failli, c'est trop fort. Puisque je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu des attaques. Et c'est grâce à l'armée qui fait partie de l'État qui a fait pousser à deux reprises ces attaques. Et même cette fois-ci, même s'il y a eu des morts, l'armée a fait quelque chose. Et également au niveau des autorités, les décisions. Puisque je vous ai parlé que dans la zone, il y a eu même la présence de l'autorité suprême qui était arrivée. C'était toujours dans la recherche de la solution. Je pense que le problème est assez complexe. Je vais également de répondre à Mouskès qui a dit qu'il fallait qu'on identifie le Maïmaï-Mazembe à un groupe purement tribal appartenant au Nandé. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses comme je l'ai fait. Je dis, partout ailleurs, on peut trouver des groupes armés, on peut trouver des bandits. Et ce sont des bandits. Des bandits, eux-mêmes, peuvent se regrouper, mais ils n'ont pas l'aval d'une communauté. Nous sommes au Nord Kivu, je pense que vous l'avez, Maître Kabota l'a dit, il n'a pas parlé que c'est la communauté Nande qui aurait constitué ce groupe. Je vous dis que les Nande comme les Hutus ou les autres ethnies cohabitent. Il n'y a pas que les Hutus et les Nande au sud de Lubero. À Rutshuru, il y a les Nande et les Hutus. À Goma, il y a les Nande et les Hutus. Et même au sud de Lubero, ce n'était pas des attaques entre communautés civiles. Nous sommes en face d'un groupe armé. Des gens qui se sont constitués en groupe armé, mais qui attaquent des populations civiles. Mais puisque parmi leurs membres, il y a des Nande, nous voulons attribuer ce groupe à un groupe ethnique. Moi, je pense que cette façon de voir les choses, nous n'allons pas arranger. Sinon, on va plutôt peut-être encourager que les autres communautés puissent avoir des groupes armés.
Ce
sont des actes qu'il faut condamner. Ce sont des actes qu'il faut tout le monde condamner avec la dernière énergie.
Alors on a suivi M. Niquet qui a dit tout à l'heure, M. Bokele s'il vous plaît, qu'il y a quand même plusieurs groupes Maïmaï dans le coin et ces groupes seraient entretenus par les fils du coin.
Effectivement, bon, nous ne sommes pas l'avocat du diable. Effectivement, nous connaissons qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il ne prévoit pas voir un groupe sans qu'il y ait un leader. Et partout, c'est ça, c'est comme ça. Mais on ne peut pas dire que c'est toute la communauté qui soutient ce groupe. Je suis administrateur du territoire, je ne suis pas Mounambe, je ne suis pas Moutou. Je connais que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Lubero, il n'y a pas une communauté qui s'est regroupée et qui a donné le pouvoir au Maïmaï. Et pour vous dire, les Maïmaï qui sont dans le site de Lubero ne sont pas un groupe. Ce sont des groupes séparément, qui ont des leaders différents. Il suffit que deux personnes, trois personnes ou quatre jeunes trouvent une arme. Ils se constituent à un groupe armé. Alors vous comprenez qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un leader qui puisse regrouper tous ces gens-là. Ce sont des bandits qui n'ont pas du travail, comme M. Niskens l'a dit, et qui croient qu'avec l'arme, ils peuvent avoir ce qu'ils ont besoin.
Alors, monsieur l'administrateur, tous les ménages qui s'est trouvé à Luanga ont quitté ce site pour trouver refuge dans le village Kasengi, près de la base de la MONUSCO, à quelques 2 kilomètres de Luanga. Toutes ces personnes vont y rester jusque quand?
Oui, en fait, je vous ai parlé qu'il y a eu des psychoses, vraiment, à la population. D'abord, il y a 2 attaques successives dans le camp. Et la population n'a pas quitté le camp là où ils étaient pour aller vers la base de la MONUSCO. La population est restée dans le camp. Nous avons demandé aux éléments de la MONUSCO de venir patrouiller et le faire de ceux qui est au-dessus pour que la population puisse partir dans le camp. Et cette population, il n'y a pas que cette population qui est dans ce cas. Il y a aussi une partie de la population qui est arrivée à Kanyabayonga. D'ailleurs, elle est venue avant même ces attaques. Là, c'était par rapport aux attaques du 13, elle a quitté le coin pour venir à Kanyabayonga. Nous pensons que nous ne pouvons pas accepter que nos populations puissent passer de temps dans le camp. Il faut qu'on cherche des solutions pour que, puisque on ne peut pas faire un cas à quelques mètres, vous avez votre maison. Il faut que nous puissions prendre des solutions pour que la population regagne sa maison et puisse vaguer à l'aise à ses occupations.
Merci. Maître Marc Abota, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bénin.
Abdoul Makassi, depuis la ville de Bénin dans le Nord Kivu. Il est tout à fait inadmissible dans un territoire dont on y trouve les forces et services de sécurité, mais une milice parvient à tuer plus de 30 personnes et plusieurs blessés. Ainsi, peut-on lier cette incursion facile des milices dans ce territoire suite à l'effectif très réduit des forces armées de la République dans ces coins?
Maître Kavota, je crois que vous avez déjà vous avez répondu dans votre première intervention à la question de cet auditeur, mais vous pouvez toujours dire un mot.
Bien sûr, mais peu avant, je voudrais commencer par me lever sur ce que M. Nikkei a dit. En fait, il a fait allusion au communiqué du SIDOP, hein, le SIDOP qui est une organisation autre que le CEPADON, et je comprends que on dit, lorsque Radio Okapi a annoncé le sujet, par erreur, les journalistes parlaient du CEPADOM, s'agissant d'une recommandation faite par le CIDOP, qui est le Centre international pour les droits de l'homme, la paix et l'environnement, qui est une autre organisation que le CEPADOM. Et est partagé tout de même avec Nikkei, le point de vue selon lequel cette recommandation semble partiel, parce qu'avant de s'attaquer, avant de sanctionner ceux qui ont défailli selon l'organisation à la protection des civils, il faut d'abord rechercher et sanctionner les auteurs de cette barbarie. Nous pensons que l'auditorat militaire ou encore la cour militaire opérationnelle qui est présente dans cette partie du pays va effectivement s'intéresser à ce qui a prévalu à Luanda et même tous les autres crimes qui ont prévalu dans les autres villages pour en rechercher les auteurs, les sanctionner éventuellement et maintenant établir les responsabilités quant à la protection ou non des populations.
Lorsque vous parlez de rechercher les auteurs, vous faites allusion sûrement au Maïmaï Mazimbé. Est-ce qu'il faut rechercher? Est-ce que c'est une organisation, c'est des organisations bien organisées? On peut facilement dire que c'est telle personne qui est à la tête de ce groupe armé?
Vous savez, ce qu'il y a comme difficulté dans cette partie du pays, c'est que les groupes naissent, ils évoluent, ils s'attribuent d'autres noms, ils changent de responsables, parce que je sais que par le passé, le Maïmaï appelé aujourd'hui Mazembe s'appelait UPDI, Union des Patriotes pour la défense des intérêts des innocents. Et à ce moment-là, ils prétendaient s'attaquer au FDLR pour protéger les civils. L'objectif a été détourné, de là, ils s'attaquent maintenant aux populations civiles. Donc, tous ces gens, ce sont des bandits qu'il faut arrêter, ce sont des groupes qu'il faut traquer. Et une fois traqués, ceux qui seront capturés, et dès lors qu'il est établi qu'ils ont participé à tel ou tel autre massacre, il faut qu'ils répondent à la justice. Je pense que ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, c'est parce que de ce côté-là, on n'a pas fait assez. Il y a eu un massacre en Amérique, c'était au mois de janvier de l'année en cours. Il y a eu d'autres massacres dans des villages, mais pratiquement ceux qui ont perpétré ces massacres n'ont jamais, pour la plupart, été arrêtés, et ça fait qu'ils continuent leur aventure. Ici, je voudrais faire allusion au Maïmaï Mazembe, qui doit être recherché, qui doit être traqué, et dont les auteurs, qui sont auteurs des actes de barbarie perpétrés à Luanda notamment. Alors, si vous voulez, je peux revenir à la question de l'auditeur. Je voudrais ici dire que il est clair que lorsqu'on analyse la situation qui prévaut à ces jours dans les sites libéraux, et si on devient superficiel, on risque de banaliser la situation. Mais lorsque on marie ce qui se passe dans les sites libéraux avec l'évolution de la situation dans les sites du territoire de Bénin, où aujourd'hui on fait face aux milices Maïmaï appelées IPLC ou encore Corps du Christ, ou Virondo, tout ça, tous ces groupes-là, ce sont des groupes qui sont en train d'agir. pour déconcerter les forces de défense, pour déconcerter la police. Mais nous sommes en train de craindre que ces groupes soient en train d'œuvrer pour ouvrir la voie à une nouvelle rébellion. Et c'est à ce sujet que nous sommes en train d'alerter tous les jours le gouvernement central qui a pris plus d'attention sur Kinshasa avec le dialogue national et avec les questions politiques, oubliant que les questions brillantes de sécurité sont à intégrer dans les priorités et pour lequel il faut agir afin de ne pas être surpris.
Merci Omar Kavota Dikez Kibelbel. On a aussi une question, une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Robert, on est de Bukavu, au sud Kivu. Cette situation est très regrettable. Je ne pense pas qu'ouvrir une action publique entre tous les responsables de sécurité et les militaires qui n'ont pas sécurisé la population de Luanga à Lubero puisse constituer une solution définitive au problème sécuritaire dans cette contrée du Nord Kivu. Encore faudrait-il que le gouvernement arrive à s'attaquer sérieusement aux vraies causes de l'insécurité en RDC, en particulier dans tout l'est de celle-ci, pour espérer à une stabilité au Nord Kivu. Sinon, on ne ferait que tâtonner par rapport à ces dossiers.
Nikez Kibelbel, quelles seraient les solutions adéquates pour finalement mettre fin à ce genre de situation qui se répète? Ça fait pratiquement une année, comme l'a dit notre consoeur Rosalie Zawadi.
Oui, merci, mais c'est comme je dis, l'administrateur du territoire les appelle des bandits. C'est vrai, ils sont des bandits. Ils ne veulent pas reconnaître que c'est des problèmes ethniques. Mais regardez, la communauté Hutu a décrété 4 jours de deuil unique, demandant aux populations Hutu d'entrer en deuil. C'est un problème qui est un problème national. Ceux qui ont été tués, ce sont des Congolais. En réalité, on devait décréter le deuil pour toute la République. Mais si les Hutus font le deuil pour eux-mêmes, vous pensez que demain il n'y aura pas de vengeance? Il y aura des vengeances. Donc le problème, il est profond. Il faudrait effectivement qu'on crève l'abcès en désignant les auteurs, les manipulateurs et en les traduisant devant la justice. Mais si on fait des faux fuyants, il n'y aura pas de solution. C'est vrai, dans le système de victimisation ici, parce que chaque communauté victimise et se victimise, on pointe le gouvernement, la faillite de l'État. Mais j'insiste, l'État peut être animé de bonne volonté. Mais si les populations ne veulent pas adhérer à l'armée nationale ou bien à la PNC, il n'y aura pas de solution. Donc le problème, effectivement, il est profond. Et il faut l'examiner et le prendre avec des pincettes pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut réhabiliter la justice. Pas réhabiliter la justice au sens vulgaire du terme, mais il faut responsabiliser la justice, parce que la justice n'a pas été responsabilisée. On n'arrête pas les gens qui tuent. Les Maïmaï Mazembe, ils ont fait pratiquement toute la tournée, ils ont fait une tournée touristique depuis le Beni, Sud Lubero, le Butembo, et ainsi de suite. On n'a arrêté personne. Et à chaque fois qu'on veut arrêter, il y a une certaine frange de la population qui crie, qui dit non, il faut les laisser. Le problème, nous le disons, nous faisons des analyses, le problème, il est avant tout identitaire. Il faut que les leaders puissent se désolidariser, ou bien il faut désigner ceux qui allument le feu. Mais si on veut dire non, c'est un groupe de gens, nous ne les avons pas envoyés, bon, ils n'agissent pas pour telle communauté, on ne trouvera pas de solution. Donc c'est regrettable que l'administrateur du territoire doit prendre cette posture-là, mais le problème il est interethnique, le problème il est identitaire, il faut mettre le doigt à la plaie pour trouver des solutions.
Alors vous avez parlé aussi de la jeunesse qui se laisse entraîner, une sensibilisation serait-elle aussi parmi les solutions face à cette situation?
Mais c'est la meilleure des solutions d'ailleurs, mais vous imaginez même que le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, est passé par ici, par, disons, Beni Lubero, Beni Butembo, demander à la population de ne pas se faire scarifier, donc des tatouages, comme on dit. Mais qui l'a suivi? Le message n'est pas passé, parce qu'effectivement, il y a ces gens-là qui manipulent la population, qui demandent aux jeunes de se faire tatouer, parce qu'ils sont invincibles. Donc le problème de la sensibilisation en émo, c'est le vrai problème qui se pose, et cette sensibilisation ne peut passer que par des leaders locaux, des leaders ethniques, pour dire à la population, à leurs ethnies, de ne pas jouer avec le feu. Parce que le gouvernement peut sensibiliser comme le gouverneur l'a fait, mais si le message ethnique passe mieux que le message de l'État,
rien, on ne trouvera pas de solution.
Merci Nikaz Kibelbel, monsieur l'administrateur. Quelles sont les solutions, qu'est-ce que vous préconisez pour finalement que cette situation, que ce genre de situation ne se répète plus dans cette partie du pays?
Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle que nous devons attendre. Il faut nécessairement responsabiliser tout le monde, comme l'a dit Louis XV. Et je n'ai pas dit qu'il n'y a pas dans cette histoire quelques leaders locaux qui pourraient tirer des ficelles, mais dit qu'on ne pourrait pas prendre la question comme si c'était un problème des communautés, comme si c'était les deux communautés, les Hutu et les Tutsi, qui s'affrontent. Mais plutôt, ce sont des individus qui veulent peut-être présenter le problème sous forme d'un problème communautaire. Il faut nécessairement qu'on puisse inclure tout le monde à la solution. La population elle-même doit comprendre qu'également, si elle n'est pas responsabilisée, nous ne saurons pas trouver la solution. Également aussi, il faut renforcer la capacité de nos forces armées. On vous a dit tout à l'heure que les maïmaïs se multiplient. Et face à cette situation, si nous n'avons pas une force égale ou supérieure à celle-là, nous allons toujours subir. J'ai aimé ce que Musquin l'a dit. Oui, le gouvernement est en train de faire des efforts en sensibilisant les jeunes, en demandant aux jeunes d'intégrer l'armée ou la police. Mais ce peu de jeunes qui s'intéressent à l'armée ou la police. Mais quand tu as des problèmes, on se demande, il faut l'armée, il faut la police. Mais l'armée, on ne peut pas les trouver ailleurs si les gens ne s'intéressent pas. Je pense que c'est maintenant, les gens qui aiment le Congo doivent comprendre que le Congo est en danger.
Merci.
À des gens qui ont des intérêts obscurs, nous devons tous fournir des efforts pour commettre ces menaces.
Merci, monsieur l'administrateur Bokele Joy. Ça sera sur votre conclusion. Maître Omar Kavota, vos propositions pour mettre fin à cette situation et votre conclusion.
En fait, il ne faut pas passer par quatre chemins. La solution passe par renforcer l'autorité de l'État dans cette partie pour éviter l'escalade de la violence, ce cycle infernal de violence, et pour éviter à ce que les conflits ne soient à caractère identitaire ouvert, donc les conflits ne passent ouvertement à un conflit à caractère ethnique, parce que les groupes armés qui sont en train de faire ces attaques sont en train effectivement de pousser les communautés vers ce jeu-là et comme ça à rendre la zone ingouvernable. De deux, il faut passer à l'apaisement, donc appeler les uns les autres aux apaisements, à la tolérance et au dialogue, comme l'ont suggéré les députés provinciaux, en tout cas qui ont pratiquement passé un bon message, mais également, comme l'a souligné Nikaz, passer aux sanctions des auteurs, des manipulateurs et tous ceux qui sont tireurs de ficelles doivent être identifiés et reliés au gouvernement à travers ses services de sécurité, à travers la justice, à les identifier pour que finalement la zone soit assainie. Enfin, il faut renforcer la présence militaire et policière. On sait que cette zone est en proie à la violence, cette zone est en proie à une nouvelle guerre. Il faut que Kinshasa prenne conscience de cela et
renforce la présence militaire pour éviter ces groupes armés. Merci, maître Omar. Marc Avota, Nikaz Kibelbel, votre conclusion.
Il faut toute une pédagogie dans la sensibilisation des jeunes, surtout des jeunes, pour qu'ils ne suivent pas aveuglément les leaders. Et il faut responsabiliser la justice pour que les infractions étant individuelles, qu'on poursuive ceux qui manipulent la jeunesse.
Merci Nikaz Kibelbel, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Rung, Guimate, Berry Frankel Utaka, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à Alain Goy qui était à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.